Une vie, une œuvre, Mano Solo, 1963, Chalon-sur-Marne, 2010, Paris. Une mère, Isabelle Monin, rédactrice en chef de La Gueule Ouverte. Un père, Jean Cabu, qui caricature le monde et tutoie le grand Dudu. Un fils, Emmanuel Cabu, nom de scène, Mano Solo. Dans son enfance surgissent Higelin, Coluche ou Reiser en guise de bonne fée. De Chalon-sur-Marne à Ozoir-la-Ferrière, c'est la rue qui est son école, violence et drogue comprises. Avec sa guitare, il est accueilli par les Chihuahuas, mais préfère la solitude. Il plonge le rock dans la java, le jazz ou le flamenco. Il a 30 ans quand la marmaille nue lui accorde le succès et un peu de tranquillité. C'est un poète qui veut toucher tous les êtres et c'est au Bataclan, en 1995, qu'il annonce « J'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. La bonne, c'est que je ne suis plus séropositif. La mauvaise, c'est que j'ai le sida. » Dans Joseph sous la pluie, il jette des dessins, des poèmes, des nouvelles. Ces mots assassinent le futur. Olivier Minot signe, avec Annabelle Brouard, Une vie, une œuvre, Mano Solo.
Copain clopant, je me regarde. Où est donc partie toute cette fumée? Qu'est-il advenu du couteau, de la mauvaise poix, maigre brouet de brouillard, ou faire chabreau d'hémoglobine? Une salle de billard, place Clichy, au mur de nicotine, et roule les boules dans un drôle de tempo. Une rouge pour deux blanches, une tranche de jambon dans la peinture, rue de Parme, sous les toits. C'était pourtant encore un homme libre. Je me regarde, c'est lui que je vois. Il en savait déjà bien plus que moi. Les clones de notre passé doucement mangent dans la main de la fumée.
Ce soir, exceptionnellement, pour le dernier concert de Mano Solo, on a invité... Oui, si. On a invité des violons pour être sûr de vous faire chialer.
Une vie, une œuvre.
Mano Solo, poète punk.
Et liberté, c'est paix, pas un seul de regret. Mais ai-je vraiment eu tort? Le chemin ne mène-t-il pas à la mort? Qui ne changerait pas 100 ans d'ennui contre 35 ans de vie? J'ai voulu voler, pas voulu marcher, voulu réchauffer ma couenne de papier. J'ai joué avec le soleil qui m'a cramé.
Il a la rage, il a la haine, parce que la rage, c'est son moteur aussi. D'une maladie, ou d'une tension, ou d'une douleur, qui devient de la rage, en faire quelque chose de beau. Ça, c'est Mano, quoi.
Il était lui un personnage de roman, finalement. Presque un roman à la Maupassant, quoi.
Ce mec avait une force intérieure incroyable.
Tout l'affectait, enfin...
Pour tout.
Le côté teigneux, guerrier, quoi, voilà.
Il finissait toujours par voir les choses sous l'angle de la colère. Ça commençait, tu te marrais, à la fin, tu t'engueulais, quoi. Sur le même sujet. Mais en même temps, il aimait bien ça. Ça, c'est quelque chose.
La liberté ou la mort, j'aurais eu les deux. La liberté ou la mort, c'est mieux que finir vieux.
Vous connaissez la pluie et la tempête. Moi, je connais la mer. Au fond, c'est tout noir et ça fait peur. Je connais l'air des montagnes, la sueur des plaines, le mouette des boulevards et le bruit des bactéries baisant dans la rigole. Et je rigolerais bien en leur parlant de musique, de peinture et de poésie, de peur, d'attente, d'envie, d'espoir, d'illusion. Toutes ces choses qu'elles nous envient en silence, plantées là qu'elles sont par nous les hommes. Alors tombera le silence de mort, la mort pour tous, l'herbe, le soleil, les oiseaux, les dauphins, les hommes. Je suis un homme, je Je vais mourir. Mais pas tout de suite. Il me restera 5 minutes. À respirer, sentir, tendre la main vers le vide. Demain, un enfant mourra. Demain, la terre meurt. Demain, les oiseaux sont en plomb. Demain, je vais partir. Demain, j'existe. Demain, je nais.
Asdat, tais-toi.
J'écoutais Mano Solo quand j'étais seule dans ma chambre et ado. Je crois que j'ai commencé à écouter, j'avais 12 ans. Et j'ai écouté ça tout le collège et le lycée, c'était hyper fort pour moi. Ça, genre, j'avais l'impression que c'était un petit cadeau pour moi, personne ne connaissait dans mon entourage. Et moi je crois qu'il m'accompagnait parce que j'avais des proches qui étaient vraiment très 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 malades. Bah, c'était mon père en fait. Sa dépression, ça a détruit toute sa vie parce qu'il a tout perdu, il a perdu son travail, il a perdu son rôle de chef de famille, il a perdu tout ce qui faisait sens pour lui. Il a arrêté de vivre en fait, il a nié, il a arrêté de vivre et tout s'est effondré autour de lui. Et il n'y a personne autour de moi qui comprenait ce que c'était la dépression, personne qui m'expliquait ce que c'était. Et c'était des choses que je ne pouvais pas trop partager avec les gens avec qui j'étais. C'était tabou, en fait. On n'est pas beaucoup, on est jeune, on ne parle pas trop des tristesses, parce que ça fait super peur et que personne ne connaît ça. Du coup, je crois que je vivais ma vie avec la maladie à travers Mano Solo. En fait, il avait une foi dans la vie malgré tout, quoi. Il ne se laissait pas abattre, et moi je trouvais ça mais hyper fort. Et c'était la chose dont j'avais besoin, en fait. On peut continuer à vivre, même si on est malade, juste la vie, elle change. Mano Solo, il avait une forme de poésie. Dans la maladie, il montrait un peu toutes ces noirceurs, tous ces gens dont on n'entend pas parler parce qu'ils n'ont pas la belle vie. Ils sont gros, ils sont moches, ils sont cassés. Mano Solo, il m'a aidé à avoir de l'affection pour toute cette catégorie de gens qu'on voit tout pourris.
Je marche la nuit, je monte des escaliers, je sonne aux portes. Derrière, il y a des gens. Je leur dis, la vie c'est comme la peinture, c'est beau mais c'est chiant. Tout ça.
Je l'ai connu parce que je faisais partie de l'équipe d'Harakiri. Il y avait là donc tout un tas de gens. Cabana, Choron qui avait créé ça. Gabu, Rezer, tout ça, qui était un peu la deuxième fournée, qui était encore jeune, même si moi j'avais 20-25 ans, les autres avaient la quarantaine. Donc vous voyez ces gens avec leurs enfants. Alors c'était pas beaucoup l'habitude de faire venir la famille dans les locaux, mais de temps en temps, quand même, pour différentes raisons, quelqu'un débarquait avec les gosses, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai vu apparaître Mano.
Jacques Berroyer.
À l'évidence qu'a bu...
auteur et tonton bienveillant.
N'était pas du tout du genre à jouer le père et tout ça. Il se trouve que sa mère aussi, Isabelle, écrivait aussi pour Charlie Hebdo. C'est-à-dire que c'était, je crois que parmi les gens d'Harakiri, j'étais... quelqu'un pour qui il avait de l'estime, envers qui il n'était pas en révolte, en ricanement et tout ça. Parce que d'abord, j'ai un peu gratté la guitare avec lui dans les locaux, comme on a fait de la musique avec le professeur Choron à une époque. Et quand lui jouait de la guitare et qu'il avait un look et une démarche un peu punk, oui, au moment, on a fait un peu n'importe quoi dans la cave comme ça. Donc il voyait qu'il y avait une accroche avec moi, que j'étais pas dans un autre monde. Parce que c'est vrai que finalement, il était assez fâché de voir que son père ne comprenait pas, parce que son père lui avait des leçons de morale du genre « Nous, on a essayé de changer le monde, et toi, ta génération, regarde, le punk, c'est négatif, tout ça. » Moi, j'ai toujours remarqué ça, c'est-à-dire un côté réactionnaire chez Cabu. Alors, le Ghost voulait lui montrer que c'était ça aussi l'expression de maintenant, et que c'était aussi une manière d'exprimer des choses, et même artistiquement.
C'était un pauvre petit qui tombait sur le boulevard. Sa mère avait la folie, son père était tout placard. C'était un pauvre petit qui a joué au maquisard. Debout avec son fusil en haut de la rue de Rochechouart. La révolution c'était pas pour lui, il comptait plus sur son pétard. Pour lutter contre l'ennui et les lendemains qui chantent la fin. Quand il a mis son chargeur, Yéman, les gens ont pris peur. La 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 la
fond, c'est pas ma nourrice tatouée là, mais je sais toujours pas ce que ça représente. Je suis certainement un vieux punk à la con. Parce que encore aujourd'hui, là, je vais sur Knutella télécharger des vieux machins punk que je trouve plus.
Mano Solo.
Quand je retrouve un
2001.
Un morceau des Dead Boys, putain, je suis vachement content. Ça me rappelle tellement de trucs. Ça me. J'adore cette musique, une musique essentielle, tu vois. Moi, j'ai toujours rêvé d'être chanteur dans un groupe de punk, quoi, en fait. On peut regarder toutes mes compositions, tu les joues à fond la caisse et tout, et ça te fait des morceaux punk. Je me sens proche de ce que j'aimais quand j'avais 15 ans et que j'étais punk.
On s'est rencontrés en, je crois que c'est en 78 ou un truc comme ça, en 79 peut-être. On s'est connus au Gibus, qui était la boîte punk de Paris à l'époque, où il y avait tous les soirs un concert. Et à l'époque, on prenait des amphétamines, on passait nos nuits là-bas, à danser le pogo, tout ça.
Napo Romero.
Et je l'ai rencontré là.
Guitariste des Chihuahuas.
C'est marrant parce que quand il est arrivé dans le club, j'ai trouvé, tiens, ce mec dégage quelque chose.
Et plus vieux pote de Manon.
Et puis donc, dans la nuit, on a dû se parler, je sais pas comment ça se fait. On était jeunes, quoi, on avait 17 ans. Voilà, on s'est trouvé là. Et puis donc, dans la rue, quand t'es punk, et ben, faut te protéger. De toute façon, quand t'es dans la rue, c'est l'endroit de tous les dangers. Il n'y a pas pire que la rue, en fait, quand t'es jeune. Donc on se protégeait avec, en connaissant tous les voyous. On était proche de plein de bandes et tout ça. Dans Paris, le Paris Apache, on appelait ça de l'époque, où t'avais des bandes de punk, des bandes de rockers, des bandes de rebelles, des bandes de beaufs, des bandes de tout. Et qui se mettaient sur la gueule dans Paname, quoi. C'était sympa. Mais nous, on était un peu petits, donc fallait en passer notre temps à courir. Et puis, surtout, le truc qui faisait qu'on se sentait bien, c'était la musique. Notamment le punk rock à l'époque, ça nous faisait triper, quoi. C'était notre vie, quoi. Au Halles, il y avait un condensé de zonards, en fait, qui s'appelait la Raya. La Raya des Halles. Et dans la Raya des Halles, il y avait des punks, il y avait des skinheads, il y avait des rockers, il y avait des voyous, il y avait des voleurs, il y avait des. Avec une espèce de code de l'honneur, on va dire. Et la Raya allait dans tous les concerts gratuits. Alors, comment on faisait? C'était vraiment le sport, hein, tous les soirs. Alors, ce soir, ouais, il y a machin au Bataclan, il y a truc. Alors, soit on arrivait à truander des places, à je sais pas quoi, ou des fois on arrivait à 100 devant la porte et on poussait. Il n'y a pas une sécu qui peut résister, tu vois. Et puis les mecs du premier rang, ils sont là, mais c'est pas moi, les mecs, ils poussent derrière. Donc, et pouf, ils montaient comme ça. On a fait ça dans des dizaines de concerts. Le plus spectaculaire qu'on ait fait, on est rentré pendant 3-4 jours dans un festival au Palace, par les toits. Alors là, c'était costaud, parce qu'il fallait entrer dans un immeuble à côté, aller au dernier étage, il y avait une échelle, hein, lucarne, ouverte, on passait sur le toit, on rejoignait les toits du palace sur lequel il y avait une guérite, et un escalier qui descendait comme ça, comme ça, comme ça, et on arrivait, ping, dans les loges. Alors là, dans les loges, tu te retrouves avec le groupe. Et bon, c'est spécial, moi j'étais voir les Ramones, comme ça, je suis retrouvé dans la loge des Ramones, ils étaient là en train de se préparer, puis j'ai tout de suite couru sur scène, là, t'avais les videurs qui te couraient, et slam dans le public, tu pouvais plus te choper, quoi, voilà.
À 15 ans du matin, j'ai pris par un drôle de chemin des épines plein les bras.
Paris a été inondé d'héroïne à un moment.
Je me suis trouvé la peau 1000 fois.
Oui, tu trouvais c'était plus facile à trouver qu'à fumer, quoi. Mais non, on était destroy, donc on se foutait n'importe quoi dans la gueule, quoi. On se foutait du vin rouge. On était sous en 2 secondes. Ah, oh, génial. Parce qu'on n'avait rien d'autre à foutre, surtout. On s'emmerdait, mais c'était un point terrible. Sinon, on était rejetés de partout. On avait le droit d'entrer nulle part. On était avec les cheveux rouges, verts, bleus. Donc t'es tout le temps à la rue.
À 18 ans du matin, j'étais dans un sale pétrin. Jouant du poing, de la chignole, la cambriole du vol de bagnole.
Il habitait à Ouzoir-la-Ferrière. Alors quand il venait à Paris, bah, fallait qu'il choisisse des bagnoles pour pouvoir rentrer chez lui. Sinon, on ne pouvait pas rentrer chez lui, comme tous les mecs de banlieue. Quoi. Un truc, c'est, en fait, c'est très classique.
Ça fait du temps maintenant.
T'es parti pour être des voyous, quoi, un peu. Quoi.
Inexorablement passe le temps.
Donc tout ça, ça... Ça forge des caractères aussi. Il a été aussi influencé par un rejet évidemment très fort du monde dans lequel on vit, de la société dans laquelle on vit, qui est méga dure, qui est méga méchante, quoi. Je pense que nous, on est retrouvés dans la rue parce qu'on était poète. Et il n'y a pas pire, en fait.
À 18 ans du soir, j'ai perdu la mémoire.
Si tu veux tuer ta poésie, reste dans la rue, quoi.
À 24 ans du matin, la mort m'a serré la main. Et en me tapant un coup dans le dos, elle m'a dit salut et à bientôt. À 27 ans du matin, j'ai chopé ma putain de guitare. Et à grand coup de butoir, j'écrase le cafard. Ça fait du temps, maintenant, inexorablement. Passe le temps qui tue les enfants. à 29 ans. Du soir, j'ai perdu la mémoire. Oh, je t'abandonne ma mémoire.
À 23 ans du matin, tout seul, comme tout un chacun, les yeux grands ouverts de rien voir, j'ai peint des tableaux tout noirs.
Ce que j'aimerais savoir déjà, c'est qu'est-ce que t'as écouté dans ta vie, en gros, comme musique ?
Le premier type qui m'a fait délirer, c'était David Bowie.
En fait, j'ai rencontré Mano Solo en 2001, parce qu'à l'époque, je suis le mec qui fait les interviews autour du rock alternatif français pour la radio WeFM.
Et tu dis souvent « Vive la Révolution ». Alors, la révolution, c'est quoi pour toi ?
Je le rencontre, j'ai à peine 20 ans, je suis hyper content de le rencontrer, je suis même très très fier. Mais quand on réécoute, je pose des questions à la con, j'ai une voix qui déraille, et puis surtout, j'y connais rien. Je connais surtout rien à Mano Solo, je connais pas son histoire, je sais pas qu'il a acheté une péniche, qu'il a traîné dans mon quartier à la Croix-Rousse, à Lyon, qui vit à Pantin dans une grande maison atelier. Et surtout, je sais pas qu'il a été peintre avant d'être chanteur.
Tu sais, tous les enfants dessinent, et puis s'ils s'arrêtent pas, bah, ils s'arrêtent pas. Tu vois, bah, moi, je me suis pas arrêté, voilà.
S'ils s'emmerdaient un peu, qu'il y a un papier et un crayon, ils s'emmerdaient plus, quoi, ils dessinaient.
Mano Solo, il sort son premier album à 30 ans, ce qui est assez tard quand même pour commencer une carrière de chanteur ou même de rock. Hein. Généralement, à 30 ans, les rockstars sont déjà enterrés. Et du coup, avant ça, dans les années 80, j'ai appris qu'il a pas mal dessiné, qu'il a fait des petites BD, qu'il imprimait sur les photocopieuses de Charlie Hebdo. Sous le nom de Boredom.
Boredom, fils de l'ennui. C'était du noir et blanc, c'était sombre. Il y avait toujours un punk dessiné dans un coin. Il y avait des rats, il y avait des beats. Il n'y avait pas beaucoup de petits oiseaux et de petites fleurs. Hein.
C'est une chanson de Fred Kleinberg qui expose ici en ce moment. Là-bas au fond à droite, vous pouvez voir la mort de la trace.
Il faisait partie d'un collectif qui s'appelait Les Puissances Populaires avec Fred Kleinberg et Gaspard Noé. Il a fait pas mal de toiles. Des happenings dans la rue, des interventions publiques plus ou moins clandestines. Il faisait ce qu'on appellerait aujourd'hui du street art.
Par une nuit de longtemps, j'ai tendu cette toile.
Voilà, c'est quelqu'un qui regarde par la fenêtre. Là, c'est toujours ce train de la mort ou le train de l'ennui.
Et j'ai torché le fond avec du noir qui n'a jamais séché.
Le petit cafard de la marmaille nue.
Alors tous les matins, j'aimerais bien foutre un coup de jaune.
Transperce le cœur, bon.
Une grande claque de rouge.
Lui qui tient son cœur dans la main.
Me faire peur, jusqu'à même jeter du verre.
Et puis bon, il y a la guitare, il y a la musique. Ça a l'air de ressembler à la vie de Mano.
Mais ma palette se noie dans le fond glouton qui rend fou. Et je cogne de la tête et du corps. Et je me noie presque aussi. Alors le goulot se disperse. Et je reste là, un moment. J'ouvre les yeux sur mon image. Je me regarde. Je suis noir. Ai-je vraiment bien cerné le problème ? Sur cette blême toile qui me dévoile, y ai-je vraiment jeté tous mes contrastes, toutes mes noirceurs, toutes mes lumières ? Ai-je bien tendu mon cri, planté sur son châssis, apprêté de blanc, comme pour un mariage ?
Puis la peinture, il découvre qu'il a le sida aussi, vachement tôt, quoi. Quand on a commencé à mettre un nom sur cette merde, bah, il a su qu'il était dedans, quoi. Donc ça fait super longtemps, en fait. À l'époque, on savait même pas ce que c'était. Donc la peinture, et la peinture, avec cette espèce d'épée de Damoclès, s'est rendu compte que, waouh, demain, j'ai peut-être y passer, quoi. Ça lui a mis une urgence en tout. Je veux toucher des gens, je veux laisser une trace. Je pense qu'il s'est retrouvé sur le terrain de son père, en fait, avec la peinture. Et à un moment, il s'est dit, non, c'est chaud. Je vais aller sur un autre terrain, ça va être la chanson.
Canal du Midi, il y avait un petit gars. C'est sûr qu'il n'était pas d'ici. Ce mec-là, il était de Paris. Seulement, mais il m'entend. Et le canal Saint-Martin, ça faisait vraiment longtemps qu'il en était trop loin. Il avait un bateau, tout droit planté dans l'eau. Une vieille carcasse pourrie, qui était son paradis. Il répétait sans cesse, je retrouverai Barbès. Il en hurlait la nuit, attends-moi Paris.
Moi, j'ai vu Mano... à plein d'étapes différentes, en fait. Je lui ai appris à jouer de la guitare, quoi. Tu vois, quand on avait 17 ans, il connaissait peut-être mille assises, mais je lui ai appris les autres accords, les majeurs, les mineurs, enfin. Et après ça, je l'ai vu faire de la peinture, enragé devant ses tableaux. Après ça, il a commencé à faire des expositions de peinture où il jouait de la guitare et ses chansons, il chantait ses chansons à mourir de pleurer, quoi. Franchement, t'étais là, les tableaux, c'était que des têtes de mort, c'était sanguinaire, c'était Mano Solo, quoi. Plus ses chansons devant, t'étais complètement marre, tu fais fuir tout le monde, quoi. En même temps, c'est du pur happening, quoi. C'était classe. Mais c'était invendable. Après, on l'a pris en première partie des Chihuahuas, je me rappelle, avec sa guitare. Mais pareil, il déprimait notre public. Nous, on est arrivé avec un truc festif. Et là, moi, je le vois en concert à Paris. Et j'ai pris une claque.
Alors, à ma gauche, Maus. Fille, une jolie fille, la plus belle de la Terre. Avec sa clarinette, son saxo, son harmon et tout plein de tintouin. À ma droite, Kiwi, l'alcoolo. Qui fume sa clope sur scène tout le temps. Ah, vous voyez, je suis pas tout seul. Mais bon, des fois quand même, je leur dis, laissez-moi tranquille. Parce que moi, je marche seul. Un, deux, trois, un, deux, trois. Encore une histoire qui... Encore une histoire qu'on balance, une histoire qui se déhanche, une histoire qui a pas de chance, une histoire qui a pas de sens, une histoire pire qu'un sale dimanche, une fraction dans les rangs, un sale homme de France. Moi je marche seul, avec plus personne qui fait la gueule. Moi je marche seul, avec plus personne qui fait la gueule.
Fin des années 80, tout début des années 90, où là il vit le pied, quoi, en fait. C'est, pour moi, c'est... J'ai vraiment vu bien dans une démarche hyper constructive, hyper artistique, enfin ce qu'il lui fallait, quoi, avec une femme dont il était hyper amoureux, Marina. Alors l'amour, la musique, combiné l'épanouissement, quoi, je l'ai vu s'épanouir artistiquement et c'est là qu'il a écrit pour moi ses meilleures chansons. Ils ont la chance d'avoir un mec qui a flashé, qui a compris, et qui les fait jouer quasiment deux ou trois fois par semaine au tour-tour, un petit cavouté là à Beaubourg. Et par mine de rien, il s'est fait un petit public sur Paris à force de jouer, parce qu'il est resté là pendant un an, un truc comme ça. Et puis de se faire remarquer, à un moment, il a signé chez une major, Warner, et ils ont produit son premier album, la Marmanu.
C'est à ce moment-là qu'il prend ce nom de Mano Solo, parce que la Marmanu, c'est le nom du groupe.
Il y a eu fâcherie, évidemment, comme toujours avec Mano. Le vrai groupe, la Marmanu, se sont séparés. Et du coup, il a dit, bon, allez, ça arrête les conneries, c'est solo, quoi.
Moi, je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Moi, je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Avec plus personne à qui faire la gueule. Avec plus personne à qui faire la gueule.
Moi, je viens du rock, je viens de la scène rock de Paris, quoi, avec les Chihuahuas. C'est les gens de cette scène-là qui m'ont aidé au début en me prenant en première partie. Mais moi, j'ai jamais eu envie de faire du rock parce que je savais très bien qu'avec le contenu que j'avais,
Mano Solo,
ça deviendrait une évidence.
2007.
Et puis, je trouvais ça trop réducteur. C'est chiant de faire une musique. J'avais plus envie de surtout dire ce que j'avais à dire avant de faire de la musique, en vérité. Au début, je gueulais et puis je faisais juste trois accords avec ma guitare. Et c'était presque de la batterie, ma guitare, quoi. Je tapais dessus, puis c'est tout, tu vois. C'était pour donner le temps, quoi. C'est pour ça que les Chihuahuas, ils m'ont jeté aussi. Mais à l'époque, on émergeait, quoi. J'ai rencontré un éditeur qui voulait me signer. Je lui ai dit, OK, trois semaines plus tard, c'était fait. Puis je signais dans une majeure. Voilà comment je suis arrivé dans la majeure. Mais c'est là que je voulais aller, quoi, parce que... Il y a un truc dans le rock qui me tape sur le système, c'est que c'est des convaincus qui parlent aux convaincus. Moi, ça me branche pas du tout. J'ai envie de parler à ta grand-mère, j'ai envie de parler à ton beau-frère, j'ai envie de parler à l'agent de police, j'ai envie de parler à tout le monde, tu vois. C'est en ça que je suis ambitieux, c'est-à-dire que je considère que tout le monde peut entendre ce que j'ai à dire. C'est pour ça qu'à l'époque, j'ai pas rechigné, mais du tout, j'étais même avec plaisir à faire la chanson aux chansons. Premier album, ouais, j'ai fait deux fois la chanson aux chansons, j'étais super content parce que je me disais, bah ouais, il n'y a pas de raison qu'une petite vieille, elle n'écoute pas mes albums. Quand je vois des petits vieux, putain, j'essaye de leur faire un truc bien pour qu'ils leur donner une chance de se laisser pénétrer, même par mon agressivité, tu vois, qu'ils puissent la comprendre, l'accepter et réfléchir dessus. Et quand j'arrive à ça, putain, là, je suis vraiment content, tu vois, plus que quand il y a des minettes qui hurlent et qui tombent dans les pommes.
Sur les disques, il y avait un réal qui s'appelait Pesner, Alain Pesner. Il réalisait des trucs genre Danny Briand, des trucs comme ça, tu vois, la grosse varioche. C'était le mec qui avait signé Mano chez, à l'époque c'était encore Carrère, la maison de disques de Sheila quand même. Hein, et c'est lui qui nous avait envoyé ce réal. Grande tradition de chansons françaises qu'on connaissait pas du tout. Nous, on venait, tu vois, on est du Clepon, truc, trois accords, c'est bon. Même un accord, c'est bien. Même un mot, ça peut être bien, tu vois. Enfin,
Mathieu.
C'était super comme rencontre. Et en fait, on a vachement avancé, mais des mois, on a travaillé avec lui.
Clavier des albums La Marmaille Nue et des Frères Misère.
À l'époque, il n'y avait pas de mec qui écrivait comme ça de là où on venait. En fait, on venait d'un truc festif, c'était assez prime sautier, on va dire. C'était, on se prenait pas au sérieux. On n'était pas dans des thèmes graves comme Mano et les Alancés, son das, ses ruptures, ses colères. On n'était pas du tout dans des écritures comme ça, quoi. Il ne voulait pas être quelqu'un de léger. Bon, son problème était grave, et son contenu était grave, son propos était grave. Il voulait qu'on le prenne comme un chanteur à texte, comme un chanteur... Dès que ça déviait de ce truc-là, ça l'énervait. C'était terrible. Quand on a enregistré La Vie, c'est pas du gâteau. On était en Angleterre. Mano n'arrivait pas à mettre une voix. Vous savez comment ça se passe les disques, on fait des voix témoins, des machins, des trucs. On enregistre, on met les couches, et puis à la fin, le chanteur, il met sa voix, et c'est terrible, ça va faire un tube, c'est super. Sauf qu'il n'arrivait pas, il n'était pas en place, il n'était pas dedans. Alors, on va tout enlever, on va laisser ta petite guitare, là, celle que tu n'aimes pas, là, et tu vas chanter dessus, parce que celle-là, tu sais chanter dessus, il n'y a pas de problème, tu l'as fait 230 000 fois. Il a fait une prise, et c'était super.
Il y en avait plein les jardins, il y en avait plein les cours d'immeubles, des petits bambins, des petits parisiens, et même des petits gavroches, les deux mains au fond des poches, qui te matent en coin avec des têtes de petits malins. Alors j'ai dit, allez viens mignonne, allez viens, on en fait un. On le tiendra par la main, tous les trois, on rigolera bien. Mais c'est là que t'as dit que la vie, c'est pas du gâteau. Et qu'on fera pas de fioso, qu'on fera pas de marmot. Pour l'heure qu'elle est tout haut, que la vie c'est pas du gâteau. Même si je gagne pas ma vie, et même si j'ai le sida, moi, ça me coupe pas l'envie. Moi je me dis ouais, pourquoi pas. Je voudrais mordre à pleines dents dans les joues roses d'un enfant. Je lui dirais salut mon petit gars, lui me dirait salut papa. Je l'emmènerais faire des conneries, tous les trucs qui sont pas permis. Comment guettera les meufs, comment c'est qu'on fait la teuf.
Chez une personne, il y a des taux de maturité. Alors on est mature pour une chose, on l'est moins pour une autre. Et ça l'a fait, il y a eu un petit trémolo qui est arrivé dans la voix de Mano. Où ça y est, c'était gagné, c'était comme si, ça y est, il avait sa musique, son truc.
Pour moi, ce qui faisait aussi le côté invasif de sa musique dans le cœur des gens, c'était le vibrato dans sa voix. C'était une faille en fait, c'était ce qui le définissait, c'était aussi une forme de blessure, ou de tremblement, ou d'incertitude.
Ce qui marchait le mieux chez lui, c'était sa petite poésie personnelle. C'était lui, quoi.
Tu me dis que tout ça, c'est des fantasmes. Et j'ai du mal à te contredire. Mais je voudrais quand même laisser une trace avant de partir, avant de mourir. Même si la vie, c'est pas du gâteau. Et qu'on fera pas de fioso, qu'on fera pas de marmot. Pour l'heure qu'elle est tout haut, c'est pas du gâteau. C'est pas du gâteau. C'est pas du gâteau, c'est pas du gâteau.
Devant moi, de tout son petit long, un fantasme mort, espoir rampant, juste survivant. J'écoute le bruit des paupières qui pensent, devant moi, loin.
Ça touchait les gens, les paroles, et puis après je me dis, mais tu sais, alors ta chanson, hein, ça parle de mon copain, là, ta chanson, ça parle de ma copine qui s'est pendue quand j'avais 18 ans, ça, tu vois, tu as des trucs vachement forts, vachement intimes, tu vois, liés à nos jeunes vies, tu vois. Et je me dis, putain, comment tu fais, moi je supporte pas, quoi, tout le monde a chialé, mes copains ils chialent, c'est insupportable, je lui dis, le seul moyen de supporter ta musique, en fait, je pensais de la jouer, quoi. Il m'a dit, ben viens demain avec ta guitare. Je suis venu le lendemain avec ma guitare, on est reparti en tournée, et puis là j'ai assisté à... au début de son succès, ce qui est un moment fantastique dans la vie d'un artiste. Et là, je l'ai vu se réaliser, j'ai vu devenir un soleil, le mec. Parce que moi, dans les Chihuahuas, quand même, je l'ai vu, les pieds en dedans, se cacher derrière un ampli, le mec. À l'aise, quoi, tu vois, c'était dur. Et là, il se prenait l'Olympia, le mec. Il y avait 2500 personnes devant lui. Tout pouvait arriver, rien ne pouvait lui arriver. Il avait une force, un rayonnement. Wow.
J'ai été le voir plus tard, parce qu'il y avait Napo qui jouait avec lui. Et donc j'avais été les voir au Bataclan, voir ce que ça donnait. Il m'a parlé de son histoire de subcommandante Marcos. Donc voilà, il voulait monter un truc complètement protestataire, le truc vraiment quepon à mort, mais quepon comme il l'entendait, c'est-à-dire avec les cuivres, les trucs un peu à l'anglaise. Il voulait qu'on soit masqué sur scène, qu'on ait les cagoules, tu vois, chapas à mort. Bon, ça a fini par s'appeler Frères Misère, on n'était pas... Voilà, et puis c'était et puis des compos, alors vraiment qu'on a fait pour ça, quoi. One shot.
Je n'ai pas de pitié, je n'ai pas de quartier, je n'ai pas d'amour. J'ai passé mon tour, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de parents, je n'ai pas de mémoire, je n'ai pas d'histoire, je n'ai pas de travail, je n'ai pas mangé de l'ail, je n'ai pas d'armure, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de futur, je n'ai qu'un destin, je n'ai pas de futur.
J'ai pas de futur, j'ai que la torture. J'ai pas de pouvoir, j'ai que le trottoir. Je n'ai pas la gale, je suis pas sale, mais j'ai un trou de balle et c'est plutôt banal.
Il s'est appuyé sur ce qui se passait à cette époque-là. Ce qui fait que maintenant, tu peux écouter ça avec une certaine nostalgie. Quand tu écoutes Chirac, c'est vrai que c'est rigolo, quoi. Tu te dis, ah oui, c'est vrai, il a été président et ça nous scandalisait, quoi. Depuis, on a eu bien pire. Mais d'avoir envie d'avoir plus un coup de gueule sur Chirac, sur les FAF, sur la politique, sur les gens qui bougent pas, des gens qui passent leur temps à gueuler alors qu'ils n'en font pas une, voilà. C'est intemporel, ça marcherait maintenant aussi. C'était le truc de l'époque, et ça allait avec cette zip-là.
J'ai pas d'origine, j'ai pas de papier, je suis mal barré. J'ai pas le droit de vote pour poser ma crotte, pas vraiment patriote. Je suis pas de Nasbrock, j'ai pas de poussine, j'ai pas de flingue. Ça m'évitera fleuri, je deviendrai dingue. Je n'ai pas d'avenir, et qu'un destin.
On a fait les maquettes pendant des mois à Montreuil. Et puis ensuite, on est parti l'enregistrer pendant trois semaines à Miraval. Miraval, c'est un endroit dans le Var. C'était un studio super international. Les plus grandes stars du monde avaient enregistré là-bas. Mais les gros Cure, Pink Floyd, AC/DC, tout le monde avait enregistré là-bas.
C'est le moment où le sida se déclare en gros. Donc il commence à être affecté par la maladie. Ça commence à l'abîmer. Il commence l'interférent aussi. Ça l'a mis dans un état terrible. D'angoisse, de parano, de tout, de rejet, de tout. Donc on s'est embrouillé, évidemment. Mais pour des raisons très liées aux médicaments. Après, j'ai découvert plus tard que ça faisait ça. Sur le coup, j'ai pas tout compris. Puis le mec qui s'abîme, quoi. Commence à faire des crises d'épilepsie. Des fois, tu crois qu'il va mourir, tu sais. Truc dur.
À Miraval, moi, j'ai été obligé d'appeler Fatia, je me souviens. Pour qu'elle vienne. Fatia, c'était la manageuse. Secrétaire particulier. Enfin, vraiment, c'était elle qui s'occupait vraiment de Mano, quoi, depuis super longtemps. Et il y avait elle qui pouvait dire, il était devenu complètement ouf. Il a fallu que je l'appelle pour qu'elle descende de Paris, qu'elle vienne le calmer, pour finir ce putain de disque, quoi. Donc, en revenant à Paris, on a été mixer le truc. Je suis le seul à être venu pour mixer le truc. Je suis sorti du studio, et puis j'ai plus jamais vu Mano. C'était trop dur, tu peux pas. Tu laisses des plumes, hein. J'en connais qui ont laissé des plumes, hein. Mais quand même, hein, c'était quelqu'un d'un peu toxique. Malgré lui, je pense. Je pense pas que c'était quelqu'un de méchant. C'est mieux, mais oui, mais pas méchant.
Ça pouvait pas continuer plus longtemps parce que humainement, il était dans un bad trip. Et on s'appelait les Frères Misère. Et là, d'un coup, on n'était plus frères. Donc ça, on peut pas tricher. On va pas faire semblant. Parce qu'on est allé loin dans l'amitié. Je veux dire, soutenir quelqu'un qui est malade. Moi, j'ai perdu mon frangin du sida. C'est un truc qui m'a vachement touché. Je m'en mettrai jamais de ma vie. Jamais je m'en mettrai. J'en ai perdu d'autres, des frangins. Et lui, c'en était un, quoi. Je veux dire, et de le voir partir malade et nous faire la misère à nous, j'ai trouvé ça très injuste. Donc on a arrêté et il a retourné à solo.
Tu m'as trop vu que tu peux plus me voir. Quand tu me diras, tu me sens plus, que je sens trop fort, que je pue la mort. Quand tu me diras tous ces trucs-là. Moi j'entendrai rien, je serai déjà loin dans la musique qui m'emporte et qui me prend dans ses bras. La musique qui préchauffe la tripe et qui pleure avec moi quand tu me diras que je te fais peur.
Il n'y a plus que les chiens quand pour me regarder comme ça.
Quand tu me diras que ta vie elle est ailleurs, quand tu me diras que l'amour est un jeu d'enfant, mais que t'as plus 15 ans.
Que les chiens, pour jeter une patte d'une brutalité tendre et authentique, me mordre et lécher l'oreille, me faire des frissons et m'arracher des « je t'aime, putain, je t'aime ».
La musique qui m'emporte et qui me prend dans ses bras. La musique qui me réchauffe la tripe et qui pleure avec moi.
Ils n'ont qu'une envie, vivre avec moi et me parler des heures, d'un battement de queue, d'une langue qui pend. Il n'y a que les chiens pour prendre toute la place la nuit dans mon lit. Ou moi, je pense à toi.
C'était toujours intense. Il n'y avait pas d'ennui. On fabriquait toujours des petits films. On écrivait.
Barbara Manzetti.
On ne pouvait pas perdre de temps.
Artiste contemporaine, ancienne compagne de Mano.
Il pensait beaucoup à la fin. Il parlait de la mort tout le temps. Et malgré son courage, la peur ou le désespoir pouvaient le rattraper. Et ce désespoir ne l'écrasait pas. Au contraire, ça le mettait dans des états de révolte. Donc verbalement, il pouvait être très violent. On pouvait, en étant en sa présence, être illuminé, soit être obscurci par sa présence. C'est ça peut-être qui était dangereux. Chez lui, pas du tout. Enfin, le sida, ce n'est pas, je pense, un empêchement.
Il y a une telle intensité chez lui, dans son histoire, dans ce que tu vis avec lui, que tu ne
Martine Longan,
jamais, quoi.
Ancienne compagne de Mano.
C'est toi qui fais souvent la démarche de partir, mais tu ne le quittes pas, quoi. Au fond, il est toujours là.
Et aussi, quand on a affaire à cette intensité-là, après, les choses semblent plus fades. Et on va rechercher cette intensité ailleurs, et je pense qu'on s'épuise. À la rechercher, lui en tout cas, c'est cette intensité qu'il recherchait tout le temps. Il avait besoin d'une forme de, je sais pas, d'excellence, de présence, d'amour, de tout le temps. Une forme d'exploitation optimale de chaque seconde, chaque instant.
Il aimait les femmes, mais il aurait aimé avoir tout le monde. Il aimait ça, faire des dîners où... où il y avait des ex, quoi. Donc, tu imagines, pour toi, c'est pas super fun, quoi. Il aurait été bien en ayant un harem, quoi, d'avoir toutes ces femmes avec lui. Il aimait le lien qu'il gardait avec ses amoureuses, quoi.
Son rêve, c'était ouvrir une pizzeria et que moi, je sois la pizzaiola. Fatia, elle sera la gestionnaire, Martine la serveuse, Nadia, elle serait la cuisinière. Donc, il avait trouvé une place pour chaque femme.
Moi, je n'ai pas vécu ce truc-là, je ne crois pas.
Aïcha Ladrouze. Je
n'aurais pas vu ça comme ça, de l'histoire du harem, Mano.
Cinéaste.
Mais je pense aussi, ça c'est lié à son histoire.
A filmé Mano et vécu avec lui.
Moi, je dirais plus du harem, c'était plus de se construire une famille. Parce qu'il avait besoin de... Bah, d'être entouré, ça le rassurait, d'être un peu dans un espèce de cocon familial.
Mais moi, j'ai toujours fait des choses pour parler aux femmes. L'artiste qui va te dire qu'il n'a pas envie de séduire, c'est que c'est un faucheton.
Mano Solo.
Tu sais, j'ai passé toute mon adolescence tout seul à errer, quoi. Et en fait, heureusement que j'étais mignon et que j'étais, que je faisais plus vieux que j'en avais l'air, tu vois, et que je plaisais beaucoup aux femmes. Et en fait, j'ai été éduqué par des centaines de femmes. Et finalement, je sais mieux parler aux femmes qu'aux hommes. Je me sens mieux avec les femmes. J'ai plus confiance en les femmes. J'ai pas beaucoup de copains, moi. J'ai des copines.
Il y en avait des fées.
autour de mon berceau. Il y en avait des fées et des salauds. Et tout ce beau monde s'est battu pour moi. Et j'ai tout pris, les bons sorts, le mauvais sang. Ils ont donné tout en même temps à ce petit corps maladresse et talent.
Au-dessus de mon berceau volaient les anges si beaux, trop beaux pour être honnêtes. Ils saoulèrent mon cœur de leurs fanges et percèrent ma peau de leurs flèches. Je reste là, Saint Sébastien de l'amour, épouvantail à demoiselles. Souffrance pourtant si belle qu'elle tourne autour.
Je crois que c'est la première fois qu'il était à l'Olympia. Je suis allé lui faire un petit signe en coulisses et puis à un moment il me dit « T'as pas le numéro de mon père ?» C'était tout ce qui l'obsédait. Il se demandait s'il était dans la salle, si il allait passer le voir, si c'était une manière de dire, tu vois, que je faisais pas n'importe quoi.
En tout cas, il y avait comme ça une grosse fêlure chez Mano. C'était vis-à-vis de son père. Il se voyait plus. Il y avait beaucoup de tensions, beaucoup de non-dits, des choses qui n'avaient pas été réglées. Et puis, moi, dans ma tête, j'avais décidé de faire une espèce d'anniversaire surprise pour ses 40 ans. Et puis, on a fait venir Cabu. Et je crois que lui, voilà, ça l'avait quand même marqué très fort, cette histoire de retrouvailles.
Au début, par exemple, il ne voulait pas qu'on parle de son père, il ne voulait pas qu'on parle de sa maladie, il n'avait pas envie d'être porte-drapeau de cette cause-là, il n'avait pas envie, tu vois. Il voulait évidemment y arriver tout seul. Mais bon, les journalistes, au début, toutes les interviews, ils commençaient à le brancher sur son père, puis sur sa maladie. Bon, il a appris à construire son discours avec la maladie et puis parler de son père aussi. Parce que bon, mais ça, c'est cool, il est arrivé à éluder assez vite.
Te souviens-tu de cet enfant? Je me souviens de rien. Maman, plus j'avance et moins j'oublie. Tu sais, pour tout ça, j'ai pas le temps et la roue tourne. C'est ma mère qui écoutait Mano Solo, mais en fait, j'avais habité chez elle quasiment jamais. Elle m'a laissé avec mon père. Et 5 ans. Et je sais pas, peut-être j'avais 19 ans, un truc comme ça. Bah, du coup, j'étais chez elle. Puis en plus, elle écoutait tout le temps « Te souviens-tu ?». Donc du coup, je trouvais ça assez marrant d'écouter ça chez elle, avec qui j'étais quand même pas très en lien, un peu fâchée, un peu en colère. Et d'écouter cette chanson qui racontait que ben, plus t'avances, plus tu te souviens pas de l'enfant que t'étais. Je trouvais ça assez joli finalement. Ou alors je me disais, ben, j'aurais aimé dire ça, puis moi je sais pas faire et lui il le fait.
Te souviens-tu de cet enfant?
Mais il n'y a pas beaucoup de choses qui m'ont relié à elle. Et finalement, Mano Solo, quand je l'écoute, je peux pas oublier que la première fois que je l'ai entendu, c'est parce qu'elle, elle avait mis le disque.
Te souviens-tu des deux dents devant? Voler dans la nuit par toute une bande de souris. Te souviens-tu de cet enfant? De sa bonne plus heureuse, de tout ce qu'il trouvait beau. De ses grimaces devant la glace, qu'on avait peur qu'il reste qu'éblot. Si les cloches sonnent, ne me souviens de rien, maman. Plus j'avance et moins je me retourne. Et tu sais,
il y a des putains de cafards qui te lâchent jamais. Même avec toi, chérie. Même avec toi. Il y a des histoires présentes pour toujours qu'aucune autre ne pourra effacer. Pas même la nôtre, chérie. Pas même la nôtre. Il y a des plaisirs qu'on retrouve jamais. Même dans ton ventre, chérie. Même dans ton ventre. Il y a des yeux qu'on n'oublie pas. Hé, chérie, pourquoi tu me regardes comme ça?
J'habitais à Lyon et passé en concert à la Bourse du Travail. Je sais plus si je suis arrivé un peu en retard ou je suis allé aux toilettes. En tout cas, je suis arrivé à un moment dans la salle, au moment où un type était en train de se faire virer par les vigiles. Et donc, je trouvais ça scandaleux que quelqu'un se fasse virer d'un concert. Et en plus, un concert de Mano Solo, ça faisait trop. Et donc, je me suis approché du devant. Je l'interpellais, je disais « Mano, mais pourquoi tu bosses avec ces vigiles fachos là qui virent les gens ?» C'est pas normal, tu devrais jouer ailleurs, ça va pas. Et puis à un moment, il a entendu quoi que je l'interpellais, qu'il a dû dire un truc du genre « Ah, ça recommence » ou il a dû dire une phrase, quoi, mais on n'a pas discuté, en tout cas. Et là, immédiatement, il m'est arrivé la même chose qu'au type que j'avais vu auparavant. C'est-à-dire que deux ou trois vigiles se sont approchés de moi. Et donc, bah, j'ai arrêté de crier. Et puis, ils m'ont accompagné vers la sortie. Et le concert était fini pour moi aussi. Game over, quoi. Quelques jours ou quelques semaines après, j'ai été sur le site de Mano Solo. Et j'ai découvert qu'il y avait un forum où il y avait un certain nombre de personnes qu'on pourrait appeler des fans, quoi, en tout cas, qui échangeaient non seulement entre eux, mais aussi avec Mano Solo. Et j'ai découvert qu'il y avait un post, un topic sur le concert de Lyon. Et je constate que plusieurs personnes font référence au gros con qui a interrompu le concert. Et donc, je décide de prendre ma plume virtuelle et de raconter ma version de l'histoire sur le forum. Et Mano Solo lui-même a intervenu dans ces discussions et a dit « Ah, mais je savais pas, j'avais pas compris, moi, ce qui s'était passé. Je pensais que les vigiles allaient juste remettre genre au fond de la salle et pas spécialement virer du concert. Bon, bah, désolé. » Et puis, il me dit « Ah, bah, je t'invite à mon prochain concert à Paris. » Et donc j'étais content, quoi, de découvrir cet espace-là. Et je trouvais que, justement, enfin, j'ai hésité à dire fan, parce que je trouvais qu'il y avait un rapport assez sain, en fait, sur cet espace virtuel entre tous ces gens et lui, qui était de pas nier le fait que les gens se retrouvaient autour d'une sorte de passion commune pour quelqu'un, ce qui est toujours un peu bizarre, et en même temps de pas se la péter, quoi. Enfin, il y avait un côté simple et chouette.
Alors moi, j'ai aussi participé beaucoup à l'élaboration du site internet, hein, avec son forum, où ça s'enflammait assez rapidement. Mais en tout cas, ça lui permettait, lui, d'être en contact direct avec ses fans. C'est-à-dire que être fan, voilà, il leur disait, ça sert à rien. Si tu peux apporter quelque chose à l'histoire, et même au site, c'est super. Ou aller prendre un micro, aller faire, s'il y avait un scandale autour de chez eux, ou quelque chose d'intéressant à raconter, et pousser les gens à faire ça. Il avait envie de faire un média, de tout regrouper, on va dire, tous les arts d'expression qu'il avait à sa portée, à savoir la vidéo, puisque du coup, nous, on avait une caméra, une salle de montage, donc on pouvait monter des sujets, manifestations du DAL, des choses comme ça, des sans-papiers. Lui, il avait ses coups d'humeur, comme ça, sur l'actualité, donc il faisait ses petits éditos. C'était aussi de pouvoir amener des chroniqueurs comme ça qui venaient de partout, des journalistes, et de pouvoir faire un espèce de journal très précurseur, finalement. Voilà les sites aujourd'hui qui ont Combini, des choses comme ça. Et ça regroupait toutes les envies qu'il avait, dans l'instant présent. Et il avait besoin d'expurger comme ça tout ça, de dire, de raconter, d'aller plus vite que les autres. Et le site permettait ça.
Travail, famille, Sarkozy, c'est la compassion pour les nantis. Mais si t'as rien à offrir, prépare-toi à souffrir au rendez-vous. Tu mets des faux fonds d'un trou. Il a des planches et même des clous, d'intérêt à tenir debout. Car si demain tu sers à rien, on va te jeter comme un chien. Pour que tu puisses une fois dans la rue, épouvantail aux mains tendues, effrayer le salarié, fermer ta gueule, pas bouger. Sois dans le vent, je rejoindrai les partisans de ceux qui ont de l'amour pour la vie. Il suffira d'un instant pour comprendre la force d'être unis.
Je suis là. J'ai tellement parlé de la mort que j'ai cru la noyer, la submerger de ma vie, la saouler de mes trépignations, l'emmerder tant et tellement qu'elle abandonne l'idée même de m'emmener quelque part. J'ai tout essayé. J'ai peint, j'ai hurlé, j'ai pénétré tout le pays. Je lui ai dit, c'est pas possible, je suis trop petit pour mourir. La terre entière était d'accord, j'y ai cru, tout le monde y a cru. Et puis un matin, c'est plus pareil. Au pied de ton lit, ça ricane. Et les spasmes et les éclats secouent le paquet d'os. Et ça fait une petite musique et ça te regarde de toute sa sale gueule et ça te dit, ça va ?
Faut que j'y passe, comme les autres. J'ai pu blouser les hommes, mais pas mon destin. Je l'ai toujours su, faisant semblant de ne pas le savoir. Au gré de mes dérives et déprimes, j'ai noyé le poisson, mais son odeur dégueulasse ne m'a jamais quitté.
De toute façon, il le disait, c'est parce que j'aime la vie que je suis insupportable. Si j'aimais pas la vie, je serais déjà mort. Donc vraiment, pour ceux qui pensent qu'il était le poète de la mal-vie, je pense que c'était plutôt le poète de la vie. C'est pour ça qu'il était en colère. Sa colère vient de l'amour de la vie. Moi, je l'ai vu s'extasier devant des fleurs. Je l'ai vu pleurer devant une rivière parce que le paysage était magnifique. C'est les gens qui aiment la vie qui sont comme ça.
Daniel Jamais.
Il a vraiment été quelqu'un qui captait les énergies de son temps.
Guitariste et ami de Manu Solo.
Qui les ressentait. Il les ressentait encore plus fort que les autres parce que probablement que cette menace, et que c'est pas le sida, il faut arrêter avec le sida, c'est pas le sida en soi qui est la cause de cette poésie, c'est la menace d'un temps de vie probablement limité, et ce sentiment d'une injustice légitime. C'est normal à 24 ans de se sentir injustement attaqué par la mort, c'est normal d'être révolté, d'être en colère. Mais en tout cas, voilà, quel que soit son point de vue, où il se plaçait, il recevait le message de son temps avec une puissance tellement limite destructrice. Mais lui, en fin de compte, malgré tout, il était constructif.
Ça s'est pratiquement terminé sur scène, son histoire.
Enfin, c'est pas loin. Dernier concert à l'Olympia, oui. C'est un concert où il a énormément donné d'énergie. Bon, déjà, la semaine qui avait précédé l'Olympia, il était très fatigué. Le concert a été l'occasion d'inviter énormément de gens. Tout le monde est venu le voir, même des gens qui ne le voyaient plus. On a terminé dans la loge, presque tout le monde assis par terre, en gratouillant des trucs. On se serait cru chez les hippies, presque tellement c'était une ambiance pleine de joie, quoi. Et puis, 3-4 jours après, quand même, il s'est senti relativement mal, quoi. Et Fatia lui a dit, faut arrêter de repousser tes rendez-vous, quoi. Il est mort heureux, aimant, aimé. Alors, c'est ça qui me fait pleurer.
Aujourd'hui, les poètes, c'est des gros nazes qui font prout-prout avec leur stylo sur un coin de comptoir, bavant de la mousse, en regardant les meufs. Eh, hey, t'as vu? Je suis un prout poète. Si tu sais pas lire, je vais te les réciter.
Alors là, vous avez Manu Solo. Manu Solo, fils des sénateurs Cabu. Manu Solo, fils des sénateurs Cabu, est athée. Donc, il n'y a pas eu de cérémonie religieuse. C'est un lit au rond-point qui a été fait par l'urgentiste Patrick Pelou. La mère de Manu Solo a même chanté « Vive la Révolution » le jour de son enterrement. Manu Solo se trouve à côté d'un monstre de cinéma qui lui aussi est athée, Claude Chabrol. Ah ouais. Claude Chabrol, il n'y a pas de cérémonie religieuse, c'est une histoire cinématique.
À son enterrement, il y avait un monde, mais un truc de dingue, mais un truc de fou, quoi. Il aurait vraiment aimé ça. Alors là, hey, t'as vu tout ce monde qui est venu là pour toi, sans déconner. Et sur le registre de condoléances, moi j'ai marqué « Tu t'en tireras pas comme ça
». Bon, tu vois, quand on était petits, on se cachait au Père Lachaise. C'était notre square, c'était notre refuge quand on avait tout le monde sur le dos, qui nous voulait vraiment du mal, c'est sûr. Donc on allait fumer un spliff au Père Lachaise. On avait une petite tombe là d'une comtesse avec des colonnes, on traitait la danse, on gravait des trucs, c'est encore à graver et tout. Et il est enterré au Père Lachaise. Et ça, c'est un truc énorme pour moi. Parce que c'est chez nous, quoi, le Père Lachaise, le pays des chats de la nuit. Jim Morrison, on y a passé notre jeunesse, quoi. Quand on avait 17 ans, on était au Père Lachaise, on rentrait la nuit par les murs et on se faisait des films. C'était quelque chose, hein, la nuit, Père Lachaise. Il y avait des sectes et tout, et des trucs, ça faisait peur. Et il est au Père Lachaise, le Père Manu.
C'est une tombe très colorée.
C'est chouette.
Un peu en bazar.
Là, des gens, ils vont pleurer sur sa tombe, qu'ils connaissent pas.
Avec un visage gravé, un visage avec un chapeau.
Il y a du mimosa.
Des bracelets, des choses, des cadeaux.
En tout cas, ça tranche sur les autres tombes. On est sur quelque chose de plus coloré, de beaucoup plus...
Joyeux, en
joyeux,
fait.
Sûrement.
Mais bon, on peut être sombre et très vivant. Et je pense qu'il était très vivant. Ce
il
qui
était.
Est un peu paradoxal de dire ça ici.
Rares sont ceux qui ont été punks dans leur jeunesse, qui sont devenus des poètes après. Rares sont ceux qui ont eu ce vécu-là à ce moment précis de l'histoire de l'Europe occidentale. Il est un véritable témoin de cette époque et je connais personne qui en parle mieux que lui. Je l'écoutais avec le grand plaisir de dire « Je suis aux premières loges d'un des plus grands poètes de son temps ». C'est le seul poète punk français qu'on ait réellement de ce niveau-là, avec une écriture incroyable.
Il fait pas chaud. Dehors, il fait moins 5. À l'intérieur, il fait moins que rien.
«
C'était Mano Solo, poète punk.
Avec Jackie Berroyer, Napo Romero, Alain Bérou, Mathieu, Barbara Manzetti, Martine Longan, Aïcha Ladrouze, Daniel Jamais.
Marie, Atlantide, Mathieu, les visiteurs du Père Lachaise.
Et avec les textes de Mano lus par Camille Ardoin.
Mixage, Catherine Derrité.
Et depuis quelque temps, je le sens, un son nouveau courir sous ma peau. Qui accompagne les fous battements de mon cœur, sourdement, sourdement, ça cogne là-dedans. Et de loin en loin, ça se rapproche, une marée de triple croche qui martèle les clous de ma nouvelle maison au rythme d'un tout qui m'invite à la passion. Et je taille ma route, plus rien ne me dégoûte, poussé par mon instinct, je trace ma vie et je taille ma route. Plus rien ne me dégoûte, poussé par mon instinct, je trace ma vie avant toute fusion.
Merci à Fatia Bendaman, Héloïse Baron, Fred Kleinberg, Geneviève Aymar, Bonze, Sandrine Vandel, Sylvain Gire, Antoine Chao, Serge Bégou, Philippe Mercher, France Bleu Roussillon.
Une vie, une œuvre, Irène Omelianenko, Claire Poinsignon, Rachida Ameda.
Mano Solo.
Poète punk.
Annabelle Brouard.
Olivier Minot.
Et les coups me reviennent décalés, du temps où je battais le pavé. Et chaque jour, il devient plus fort, dans chaque partie de mon corps, ignorant les dérives, bousculant les fatigues, il pousse mon âme vers l'avant, alors que sorti du tempo, me pousse des ailes dans le dos. Yeah, yeah. Et je taille ma route, plus rien ne me dégoûte, poussé par mon instinct, je trace ma vie, et je taille ma route, plus rien ne me dégoûte, poussé par mon instinct. Je trace ma vie avant toute fusion. Cette musique, je me déroule la triple. Le son du tambour est mon meilleur ami. Chaque jour, il me ramène la vie. Il bouscule mon sommeil, me promet mon émerveil et donne autant sa propre mesure. Cicatrisant toutes les blessures. Et je taille ma route, mais rien ne me dégoûte. Poussé par mon instinct, je trace ma vie et je taille ma route. Plus rien ne me dégoûte. Poussé par mon instinct, je trace ma vie et je taille ma route. Je trace ma vie et je taille ma route. Plus rien ne me dégoûte. Poussé par mon instinct, je trace ma vie avant toute fusion.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, je perds le tempo. Hein.
Qu'est-ce qu'on veut?
Mais pour ce qui est de la tenue d'émission, je ne garantis plus là, rien. Là, c'est terminé.
Au moins, les morceaux sont
bons. Moi, qu'on me fasse plus chier maintenant.